J'ai eu l'occasion, quand je pilotais le X-15, d'observer l'atmosphère. Quand on regarde une fusée décoller, ça paraît immense et on n'y pense même pas, mais quand on regarde tout ça d'un autre point de vue, elle était si fine, c'était une part si infime de la Terre.
Voilà un extrait du film First Man qui raconte donc la vie du premier homme à avoir marché sur la Lune, Neil Armstrong. Armstrong qui pensait certainement avoir contemplé l'atmosphère terrestre dans son intégralité et donc de très loin, alors qu'en fait, pas du tout, Héloïse.
Non, pas du tout. En fait, Armstrong sur la Lune baignait encore dans l'atmosphère terrestre, si je puis dire. Ouais. C'est ce que nous explique une étude parue dans la revue Journal of Geophysical Research. L'atmosphère terrestre s'étend très loin dans l'espace jusqu'à se fondre dans l'espace, au-delà de la Lune.
Incroyable.
Incroyable. Nous sommes avec Jean-Louis Bertocco, auteur de l'étude, pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au sein du laboratoire LATMOS, laboratoire atmosphère milieu observation spatiale. Vous êtes aussi à Moscou, au laboratoire IKI. Alors souvent, nous, on se représente l'atmosphère comme une mince couche bleue autour de la Terre, mais c'est beaucoup plus que ça.
Disons qu'il y a différentes couches dans l'atmosphère. La troposphère, jusqu'à 10 km où il y a des nuages. La stratosphère, puis la mésosphère, puis la thermosphère qui s'étend de 100 à 500 km. Et au-delà de 500 km, c'est ce qu'on appelle l'exosphère.
Et tout ça fait partie de l'atmosphère ?
Oui, oui, parce que. Et au-delà de 500 km, disons, la densité est si faible que les atomes font comme des fusées. Et ils partent sur des trajectoires balistiques. Et un certain nombre ont une vitesse suffisante pour s'échapper de la Terre et s'en vont jusqu'à l'infini. Sauf qu'ils vont être tués au bout de 10 jours environ.
Donc vous êtes intéressé spécifiquement à l'exosphère. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Ce sont les atomes d'hydrogène qui s'échappent ? Expliquez-nous.
Eh bien, en fait, ces atomes d'hydrogène sont produits parce qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui est dissociée en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Et je travaille dessus depuis 1964. Alors, vous vous rendez compte ? Et c'était mon sujet de thèse. Mais là, c'est revenu au goût du jour avec des nouvelles observations.
Et cette exosphère, on ne peut pas la voir à l'œil nu ?
Non, parce que en fait, l'hydrogène atomique, on ne peut le détecter que dans la lumière ultraviolette. Il y a une source, le Soleil est une source très importante de cette lumière ultraviolette spécifique de l'atome d'hydrogène, un peu comme les atomes de sodium. Vous connaissez la couleur des lampes à sodium. Eh bien, l'équivalent pour l'hydrogène, c'est une raie qu'on appelle la raie Lyman alpha, qui est complètement absorbée par l'atmosphère terrestre. Donc, depuis le sol, on peut rien voir. Mais par contre, si on envoie des fusées, des satellites, on peut voir tous les atomes d'hydrogène qui sont dans le système solaire. Qui deviennent lumineux.
Oui, pardonnez-moi, mais c'est quoi la couleur de la lampe à sodium ?
Orange, rouge, orange. Dans les tunnels du périphérique, de temps en temps,
ah,
vous arrivez.
C'est ça.
Et tout d'un coup, vous rendez compte qu'il n'y a plus aucune couleur. Simplement, il y a la couleur orange et toutes les voitures ont la même couleur.
Donc, vous avez dû utiliser des instruments que vous avez envoyés dans l'espace pour voir cette exosphère. Ça fonctionne comment ?
Alors, en fait, l'instrument qu'on avait envoyé sur la sonde SOHO, et était pas du tout dédié à ça, c'était pour regarder justement un hydrogène, une autre source d'hydrogène qui est l'hydrogène interplanétaire, qui est détruit par le vent solaire, et comme ça on a pu détecter que le vent solaire n'était pas le même à toutes les latitudes du Soleil. C'est-à-dire, il y en a plus dans le plan équatorial du Soleil qu'au pôle.
Et alors, ça va jusqu'où ? En termes de kilomètres, on peut le chiffrer.
Alors, l'exosphère de la Terre, justement, cet appareil qui se trouve sur Sceaux, hein, au point de Lagrange, c'est-à-dire 1,5 million de kilomètres vers le Soleil. De là, on peut bien voir l'étendue complète de l'exosphère terrestre et qui s'étend jusqu'à 2 fois l'orbite de la Lune.
Alors qu'avant, on pensait qu'elle s'arrêtait où ?
Alors, on pensait que ça s'arrêtait peut-être à 200 000 kilomètres à peu près.
Il y avait
une sonde japonaise qui avait réussi à faire une photo jusqu'à environ 200 000 kilomètres. Mais là, on multiplie par 3 la distance.
Donc Neil Armstrong baignait encore dans l'atmosphère terrestre sur la Lune.
Oui, oui,
mais
absolument.
C'est incroyable.
Et alors en fait, ils avaient justement mis sur le sol de la Lune un appareil de photo sensible à cette ultraviolet. Ils ont fait une très jolie photo de l'exosphère de la Terre, mais on voyait que ça s'étendait jusqu'à 100 000 kilomètres et pas plus.
Mais il faut dire quand même qu'elle est beaucoup moins dense que celle dans laquelle on baigne aujourd'hui. Plus on s'éloigne de la Terre, moins il y a de matière, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. À l'orbite de la Lune, il ne reste plus qu'environ un atome par centimètre cube.
Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser cet hydrogène si on retourne sur la Lune ? Est-ce qu'on pourrait l'exploiter, en faire une source d'énergie ou vraiment il y en a trop peu ?
Non, vraiment il y en a trop peu. Là, je crois qu'on ne peut pas envisager que ça devienne une source importante.
Et est-ce que cette présence d'hydrogène doit être prise en compte aussi pour d'autres mesures ? Est-ce que c'est une information qu'il faudra prendre en compte pour de futurs travaux ?
Justement, j'ai dit que tous les atomes d'hydrogène émettaient un peu de cette lumière Lyman alpha et tous les télescopes spatiaux qui regardent dans n'importe quelle direction, ils voient toujours cette émission. émission. Alors heureusement, elle est confinée dans un espace spectral, petit endroit spectral, donc il faut l'éliminer.
Michel Horry, vous le saviez, ça, que nous avions cette atmosphère qui allait si loin dans l'espace ?
Non, pas du tout, mais je connais la planète Pluton, et la planète Pluton est un petit corps, mais son atmosphère est plusieurs fois son diamètre. Donc ça, c'est connu depuis un certain temps, donc ça ne me surprend qu'à moitié.
Oui, enfin, l'atmosphère terrestre ne va pas jusqu'à Pluton, quand même.
Non, parce que les atomes d'hydrogène qu'elle émet meurent avant.
Oui. Héloïse.
Dans on parle souvent des exoplanètes, donc d'autres planètes que la nôtre. Est-ce que si on voit ce signal, ça pourrait nous apprendre quelque chose d'elles ?
Bien, effectivement, les planètes terrestres ont toutes cette exosphère plus ou moins grande, et parce que ça révèle la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et on peut imaginer que si on regarde des exoplanètes, on pourrait, si on voit cette fameuse émission Lyman alpha ultraviolette, peut-être que c'est l'indice qu'il y a de la vapeur d'eau sur ces planètes.
Merci beaucoup Jean-Loup Berthaud en tout cas pour ces précisions et cette découverte quand même pour la plupart d'entre nous, cette ampleur de l'atmosphère terrestre. Vous êtes donc directeur de recherche émérite au CNRS dans ce laboratoire Latmos. Merci beaucoup Héloïse. La semaine prochaine à Une de la Science, ce sera avec Daniel Fievé.
À bientôt alors Mathieu.
Bon week-end.